économie et politique, c'est la chronique de Philippe Jürgensen.
Bonjour, la chronique d'aujourd'hui portera sur la démographie. Les philosophes nous disent depuis longtemps qu'il n'y a de richesse que d'hommes, et ils ont raison. La progression économique d'un pays dépend autant de la quantité de ses habitants et de leur qualité que des investissements matériels qu'ils mettent en œuvre. Entre les États-Unis et la vieille Europe, par exemple, le différentiel de potentiel démographique explique à lui seul près d'un point de croissance supplémentaire outre-Atlantique. L'INSEE vient de publier les premières données de notre population pour 2005. On y relève des éléments positifs. Avec 61 millions d'habitants, 63 même en comptant les dom-tom, les Français sont plus nombreux, de moitié, que pendant les premières décennies du XXe siècle, où notre population avait stagné autour de 40 millions. Moins d'ailleurs du fait du terrible prélèvement des deux guerres mondiales que du fait de la pratique de l'enfant unique dans bien des familles. Bonne nouvelle aussi, le nombre de naissances, de nouveau supérieur à 800 000 par an, augmente. Et le taux de fécondité des Françaises se situe maintenant au deuxième rang en Europe, juste derrière l'Irlande. Quel contraste avec l'effondrement démographique que nous avons connu dans les années 1930, où la population avait commencé à diminuer d'elle-même, et avec le recul préoccupant de la fécondité dans les années 1975 à 1995. Pourtant, il ne s'agit là que de quelques lumières dans un tableau général très sombre. Même si elle a remonté, après 2 enfants par femme, la fécondité n'assure toujours pas le renouvellement des générations. D'ici 20 ans, la population française recommencera donc à diminuer. Si l'on prend un peu de recul, on ne peut qu'être frappé de l'effacement progressif de la France dans la population mondiale. À l'époque de Louis XIV ou de Louis XV, la France représentait à elle seule 5% de la population mondiale qui ne dépassait guère à l'époque 500 millions d'habitants. En 1900, les Français représentaient encore, malgré un déclin démographique déjà bien entamé, 2% de la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à 1%. Et au milieu du XXIe siècle, nous ne serons plus guère que 1,5%. Si brillants que soient nos grands hommes, nos savants, nos artistes, si avancée que soit notre économie, il est évident qu'une telle chute est en même temps un recul du rôle de la France elle-même dans le monde. Il est vrai que le tableau est pire dans les pays voisins, où le déclin démographique est moins ancien qu'en France, mais où les taux de fécondité ont chuté d'une manière impressionnante. Depuis plusieurs décennies en Allemagne, plus récemment, mais encore plus profondément en Europe du Sud, où les mères n'engendrent plus que 1,3 enfants en moyenne, pardon pour cette statistique bizarre, et en Europe de l'Est, où une sorte de désespérance conduit à enregistrer les plus bas niveaux de fécondité mondiaux. Ce qui, soit dit en passant, rend presque ridicule les craintes quant à une possible invasion de plombiers polonais. Dans la plupart de ces pays, la population a déjà commencé à baisser. Le phénomène est spectaculaire en Russie, où il s'accompagne d'une surmortalité masculine qui a réduit l'espérance de vie de plusieurs années. Il naît aujourd'hui, chaque année, 2 fois moins de Russes qu'il n'en meurt. Cette évolution s'accompagne, chacun le sait, d'un vieillissement accentué. La part des moins de 20 ans, qui est encore d'un quart de la population, tombera d'ici le milieu du siècle à 20% environ, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Dans le même temps, la part des personnes âgées s'accroît. Les plus de 65 ans, qui représentent actuellement un peu moins d'un sixième de la population, vont d'ici peu dépasser en nombre les moins de 15 ans, et leur part dépassera 23% de la population européenne en 2030, et même 29% en 2050. Une traduction frappante de ce vieillissement est le fait qu'en Espagne, et de l'autre côté de la planète, au Japon, la moitié de la population aura alors plus de 52 ans. Point n'est besoin de se plonger dans le détail des excellents rapports du Conseil d'orientation des retraites pour comprendre que ce vieillissement va poser un problème majeur pour le service des pensions que chacun de nous espère recevoir dans sa vieillesse. Car le rapport entre les retraités et les actifs capables de cotiser pour eux ne cesse de diminuer. Un retraité français trouvait en face de lui 4 actifs en 1960 et il n'en trouve plus aujourd'hui qu'un peu plus de 2. Ce chiffre tombera à 1,5 actifs par retraité pour la prochaine génération. Ces phénomènes sont inéluctables car tous les mouvements démographiques ont des conséquences à très long terme. Rappelons-nous seulement que les retraités de l'an 2060 sont déjà tous nés aujourd'hui. Il est donc aisé de prévoir leur nombre à cette échéance lointaine. Les seuls facteurs sur lesquels nous pouvons agir sont le relèvement de l'âge du départ en retraite, solution déjà pratiquée par la plupart de nos voisins, l'érosion du montant des pensions et l'augmentation du niveau des cotisations, pourtant déjà jugé trop élevé. Le réalisme conduit à penser que, d'une façon ou d'une autre, une combinaison de ces trois solutions finira par être mise en place. Certains craignent que le vieillissement n'entraîne aussi une perte de dynamisme économique avec une consommation plus faible, la part de l'épargne tendant à croître avec l'âge, et avec une capacité moins grande à innover. Il est probable qu'on s'oriente plutôt en fait vers un changement de type de consommation, privilégiant les services, les loisirs, l'alimentation de qualité, que vers une diminution réelle de la consommation. Élargissons encore le propos. À l'échelle mondiale, il y a un déséquilibre flagrant, ce déséquilibre n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, entre les pays industrialisés à faible croissance de population et les pays les plus pauvres, où la démographie est en pleine explosion. Une des rares lois démographiques constamment vérifiées est en effet que l'enrichissement d'un pays s'accompagne d'une chute de la natalité. Après l'Europe, le Japon et plus récemment la Corée en sont des exemples. Il faut donc distinguer les pays en développement, de plus en plus nombreux, dans lesquels ce que les spécialistes appellent la transition démographique a déjà beaucoup progressé, et ceux dans lesquels la natalité reste proche de l'état de nature. Les efforts d'éducation et de santé ont réduit les décès dans ces pays pauvres, même si la mortalité infantile y reste scandaleusement élevée. Et la combinaison de ces progrès et de naissances encore très nombreuses engendre des taux explosifs de croissance de la population. Le modèle de la transition démographique arrivé presque à son terme parmi les pays du Sud est aujourd'hui la Chine. Ce pays, le plus peuplé du monde, puisqu'il compte près d'1,3 milliard d'habitants, un homme sur cinq est donc chinois, a, par des politiques brutales de contrôle des naissances, cassé son dynamisme démographique, au point que les prévisions de l'ONU ne lui accordent pas plus d'habitants en 2050 qu'il n'en a aujourd'hui. Il profite, pour le moment, de la phase favorable où une population active nombreuse n'a à soutenir que moins de jeunes qu'auparavant et pas encore beaucoup de vieux. Mais cette situation va changer, car la Chine va vieillir, beaucoup plus rapidement encore que nos propres pays. Au milieu du siècle, la proportion de Chinois âgés sera supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui chez nous. Beaucoup d'autres pays du Sud sont à des stades plus ou moins avancés sur ce chemin. C'est vrai pour la plupart des pays d'Amérique latine, alors que ceux-ci connaissaient, il y a encore une génération, une croissance démographique qui paraissait sans fin. C'est vrai également pour de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, auxquels une croissance rapide apporte un enrichissement bienvenu, y compris, malgré son niveau de vie encore bas, le plus peuplé d'entre eux, l'Indonésie et ses 215 millions d'habitants, où le taux de natalité a fortement chuté. C'est même vrai, et ceci peut surprendre nos auditeurs, des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, où la population continue à s'accroître, certes sous l'effet de la vitesse acquise, mais pour peu de temps, car la fécondité y a chuté à des niveaux quasi européens. Sait-on par exemple que le taux de natalité de l'Iran, pays objet aujourd'hui de toutes les inquiétudes, est tombé à 18 pour 1000, niveau qui était celui de la France il n'y a pas longtemps. À l'opposé, on peut situer deux grandes zones où la croissance démographique va rester explosive pendant encore plusieurs générations, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Le sous-continent indien, l'ex-empire des Indes de la reine Victoria, pèse déjà d'un poids démographique considérable. 1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire presque un quart de l'humanité. Or, les facteurs culturels et politiques font que les stratégies de contrôle des naissances y ont été bien moins efficaces qu'en Chine. Avec des taux de fécondité supérieurs à 3 enfants par femme, ce sous-continent indien va atteindre 2,5 milliards d'habitants en 2050. La population de l'Inde à elle seule, qui approche déjà 1,1 million d'habitants, dépassera celle de la Chine vers 2035. Et le Pakistan sera alors à lui seul plus peuplé que les États-Unis d'aujourd'hui. On mesure les conséquences de faits de ce genre sur le plan géostratégique. Quant à l'Afrique noire, qui recèle des pays dont le taux de fécondité est encore de 7 à 8 enfants par femme en moyenne, elle va continuer à connaître une explosion démographique sans précédent. Certains croient, bien à tort, que les ravages de l'épidémie de sida vont casser ce dynamisme démographique. En réalité, à part quelques pays particulièrement touchés comme l'Afrique du Sud, ce désastre sanitaire n'empêchera pas la population de l'Afrique noire de continuer à s'accroître très rapidement. Elle va presque tripler d'ici 2050, passant d'environ 750 millions actuellement à près de 2 milliards d'habitants. Un pays comme le Nigeria, déjà plus de deux fois la France d'aujourd'hui, verra sa population dépasser les 300 millions, soit autant à lui seul que toute la zone euro. Au milieu du XXIe siècle, nous aurons aussi un tableau bien différent de celui d'aujourd'hui. Les pays industrialisés auront globalement stagné aux environs de 1,2 milliard d'habitants, la chute de l'Europe étant compensée par la progression des États-Unis. La Chine ne représentera plus que 15% de la population mondiale, qui aura entre-temps atteint 9,3 milliards d'habitants. Les deux grosses masses démographiques seront l'Asie du Sud, qui représentera un quart du total, et l'Afrique subsaharienne avec 20%. Un homme sur deux sera alors africain ou indien. Ce constat démographique doit nous amener à réfléchir sur les problèmes considérables que vont poser ces différences de potentiel. Dans une quarantaine d'années, 6 hommes sur 10 se concentreront sur 15% seulement des terres. Le contraste entre ce surpeuplement et les espaces vides dans de grands pays riches comme la Russie, le Canada, l'Australie, montre que nous n'avons pas fini d'entendre parler des problèmes de l'immigration. Une autre question évidente est de savoir comment l'on parviendra à nourrir toutes ces populations supplémentaires qui s'entasseront dans les pays les plus pauvres pour celles qui ne parviendront pas à s'installer chez nous. Il faudra aussi traiter les conséquences environnementales de la croissance sans frein des mégapoles dans les pays du tiers-monde. D'ici une trentaine d'années, plusieurs de ces villes dépasseront 30 millions d'habitants et certaines approcheront 40 millions, soit à peu près la population de l'Espagne ou de la Pologne. On constate déjà une pollution massive dans toutes ces grandes cités qui deviendront proprement invivables. Le monde ne pourra pas rester sans réagir, évidemment, mais ceci est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons.